SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Cammeraygal de la nation Gurungay ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Je m'appelle Grégory Pless et c'est moi aujourd'hui qui ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure d'émission en direct et en français. Au programme du jour, nous vous proposons une interview de Michel Barnier. L'ancien négociateur en chef du Brexit pour le compte de l'Union européenne vient d'achever une série de conférences en Australie au cours de laquelle il est revenu sur cette expérience. Il nous a également dit quelques mots et tracé quelques perspectives pour l'avenir des 27. Et puis aujourd'hui, le 4 avril, on fête un autre anniversaire, celui de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui célèbre aujourd'hui ses 75 ans et qui, malgré son grand âge, n'a jamais semblé aussi pertinente, en particulier dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Et puis enfin, on échangera avec Boris Toukas, le conseiller à la coopération et à l'action culturelle de l'ambassade de France en Australie. Il nous expliquera pourquoi le rapprochement culturel entre nos deux pays est essentiel pour renforcer notre compréhension de l'autre, mais aussi pour approfondir et améliorer les relations entre nos deux pays qui, comme vous le savez, ont connu quelques turbulences ces dernières années. Mais pour l'instant, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 4 avril 2024, José Andrés, le chef qui a fondé l'ONG World Central Kitchen, accuse Israël d'avoir délibérément ciblé le véhicule qui transportait les 7 humanitaires qui ont été tués par une frappe aérienne dans la bande de Gaza, parmi lesquels se trouvait une femme australienne. L'OTAN célèbre donc aujourd'hui son 75e anniversaire. À cette occasion, les représentants des 32 pays membres de cette organisation militaire se rassemblent aujourd'hui à Bruxelles. Et puis c'est officiel, Taylor Swift est la première artiste à devenir milliardaire et ce uniquement grâce aux revenus générés par son activité musicale. La frappe aérienne qui a tué 7 humanitaires dans la bande de Gaza en début de semaine, parmi lesquels une jeune femme australienne, Zomi Francom, était délibérée. C'est l'accusation très grave formulée dans une interview par le fondateur de l'ONG World Central Kitchen, le célèbre chef José Andrés. Qu'il contredit donc ainsi les autorités israéliennes. Celles-ci ont reconnu hier être à l'origine de cette frappe, mais l'ont qualifié, je cite, de graves erreurs et de produits de la guerre. José Andrés, pour sa part, a ajouté que les circonstances de cette attaque n'étaient pas encore clairement établies.
17 members between the specialty security people we have, 3 British individuals and three international crew plus 1 Palestinian, that they were targeted systematically car by car. They attacked the first car. We're still trying to get all the information on what happened on the first car. We have a feeling they were able to escape safely because it was an armored vehicle.
Le gouvernement australien, pour sa part, et encore aujourd'hui par la voix du Premier ministre Anthony Albanese, a estimé que les explications et les excuses du gouvernement israélien étaient inacceptables. Il a rappelé également qu'il appelait, comme une large partie de la communauté internationale, à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au respect du droit humanitaire. Enfin, la famille de Zomi Francom réclame pour sa part l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. En Australie, justement, le Premier ministre Anthony Albanese s'est rendu il y a quelques minutes à un sommet des PME qui se déroule à Sydney, un sommet durant lequel il est censé dévoiler les contours de sa politique énergétique et ce, à quelques semaines du vote du budget. L'opposition conservatrice compte pour sa part avancer ses propres propositions en la matière, notamment convertir d'anciennes centrales à charbon en centrales nucléaires. Lors d'une interview accordée à nos confrères de ABC, Angus Taylor a vivement critiqué la politique actuelle du gouvernement, estimant qu'elle avait plombé le pouvoir d'achat des particuliers et des entreprises.
We've seen big increases in prices, Lisa, and that's the reality. So the typical Australian household, as I say, $1,000 more than they would have expected at this time. And that's a lot of pain at a time where we're seeing big increases in calls to helplines, whether it's for household debt or small businesses. We've seen an 82% increase in calls to helplines for small businesses.
Sortez vos parapluies, des trombes d'eau vont s'abattre sur une large partie de la côte est australienne au cours des 48 heures à venir, selon le bureau de météorologie, qui a par ailleurs émis des alertes crues et inondations sur toute une zone comprise entre le sud-est du Queensland et la South Coast de Nouvelle-Galles du Sud. On attend ainsi jusqu'à 200 mm de pluie dans la région de Sydney, avec des risques de crues majeures autour des rivières Hawkesbury et Nepean, tandis que Brisbane et Canberra vont également être frappés par des pluies torrentielles. Le bureau de météorologie prévoit également des vents très puissants de plus de 100 km/h et donc des énormes vagues tout le long du littoral. Les nageurs et les surfeurs sont donc appelés à la plus grande prudence et même dans l'idéal à rester au sec, tandis que les automobilistes, eux, sont invités à reporter quand c'est possible leur déplacement. À Taïwan, au lendemain d'un tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter, les efforts se poursuivent pour venir au secours des sinistrés, pour certains toujours coincés sous les gravats d'immeubles qui se sont effondrés. Je vous propose d'écouter le témoignage de Su Chen-wei, le maire de la ville de Hualien, toute proche de l'épicentre de ce tremblement de terre, le plus fort ayant frappé Taïwan au cours des 25 dernières années.
All residents and businesses from buildings that are in a dangerous state were evacuated. Now the search team is only concentrating on one building where we found the remains of a lady whose surname is Tang, who will be retrieved soon.
Ils ne s'étaient pas parlé depuis octobre 2022. Hier, le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, a échangé au téléphone avec son homologue russe, Sergueï Chogou. Deux sujets ont été abordés, l'attentat de Moscou revendiqué par Daesh et qui aurait fait au moins 144 morts, mais aussi, bien sûr, la guerre en Ukraine. Compte rendu de cette conversation, Heike Schmidt pour RFI.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entretiens entre Paris et Moscou étaient devenus rares. La conversation, qui a duré une heure, s'est déroulée à la demande de Paris, à un moment où les relations entre les deux pays sont pour le moins crispées, alors que le président français Emmanuel Macron s'est attiré les foudres de son homologue Vladimir Poutine pour avoir dit ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Paris continuera de soutenir l'Ukraine aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire dans sa lutte pour la liberté et la souveraineté, a rappelé Sébastien Lecornu à Sergueï Chogou. Autre sujet de l'échange, l'attentat de Moscou revendiqué par le groupe État islamique. Le ministre français des armées a proposé des échanges accrus avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme, à un moment où la France est en alerte maximale face au risque d'attentat sur son sol à 4 mois des Jeux olympiques.
L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fête donc aujourd'hui son 75e anniversaire. Pour l'occasion, les ministres des Affaires étrangères des 32 pays membres se rassemblent aujourd'hui à Bruxelles, où se trouve le siège de l'organisation qui doit par ailleurs décider prochainement si elle renforce son aide militaire à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quant à lui chanté les louanges de l'actuel secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à qui il voue d'avoir su préserver l'unité de cette alliance.
None of us could have hoped for a greater champion for this alliance than Jens Stoltenberg. No one could have done a better job holding us together when others were trying to divide us. No one could have done a better job really carrying the alliance forward. And Jens, we've all said it in different ways at different times, but it always bears repeating, we're so grateful for your leadership. Thank you.
Et je vous le rappelle, nous reviendrons plus longuement sur longtemps l'OTAN et son histoire un peu plus tard dans l'émission. En Inde, des combats de plus en plus intenses opposent l'armée régulière à la rébellion maoïste. Hier, l'armée a ainsi déclaré avoir tué 13 combattants armés, des insurgés qui, depuis près de 50 ans, disent défendre les populations des forêts du sud, du centre et de l'est du pays, où s'est déroulée cette dernière intervention de l'armée. Précision François Ballarin pour RFI.
Les affrontements ont eu lieu mardi à l'aube et ont duré pendant 8 heures environ. Des paramilitaires et des membres des forces spéciales ont pris d'assaut un groupe supposé de 100 rebelles maoïstes dans la forêt de Bijapur, dans l'état du Chhattisgarh. 13 combattants ont alors été abattus et des armes automatiques ainsi que des lance-grenades ont été récupérées. L'armée estime qu'ils faisaient partie de la guérilla armée de libération populaire, le bras armé du parti maoïste qui est interdit en Inde. En tout, 22 combattants maoïstes ont été tué en 2 semaines dans cette région. Une intensification des opérations militaires qui est certainement liée à l'approche des élections. Les habitants de cette zone du Chhattisgarh vont voter le 19 avril pour renouveler leurs députés fédéraux et les rebelles mènent régulièrement des attaques contre les candidats pendant la campagne. Le gouvernement veut donc repousser ces combattants pour empêcher ces violences.
Un mot de football maintenant. L'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, déjà accusé d'agression sexuelle par une joueuse de l'équipe nationale, Jenny Hermoso, vient d'être arrêté à Madrid où il doit répondre d'accusations de corruption. Il lui est notamment reproché d'avoir reçu des commissions illégales au cours de négociations visant à faire jouer la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Je vous propose d'écouter les explications de la journaliste de Liga TV, Semra Hunter, qui s'est exprimée sur le sujet au micro de la BBC.
It feels as though it's been a long time coming. It feels as though the chickens have come home to roost. This has been somewhat of an open secret here in Spain, in that these allegations have been rearing their ugly head for years now. Spanish media have been talking about these allegations for a very long time and have been calling for these things to be investigated properly. And so for whatever reason, that time hasn't come about until now. As it relates to this particular case, the police are saying that they've started their investigations back in June of 2022, so about a year and a half ago. And it has now taken them to this stage today where they feel as though they are going to potentially take this to trial and see what it is that will be the ultimate outcome for him. But yes, unfortunately, for many people who have worked with him and spoken very publicly about this, and even his own family members have come forward to talk about a litany of all different kinds of scandals that have been associated with Luis Rubiales during his time as the Spanish Football Federation president, and even before that as well.
Et c'est désormais officiel, la superstar américaine de la chanson Taylor Swift est milliardaire, selon en tout cas le magazine Forbes. Elle devient ainsi la première artiste musicale de l'histoire à le devenir, et ce, uniquement grâce aux revenus générés par son activité artistique. José Marinho pour RFI.
Décidément, l'interprète du succès Shake It Off est la pop star de tous les superlatifs. Taylor Swift est devenue milliardaire, car 2023 a été une année historique pour l'artiste américaine, avec un patrimoine désormais estimé à 1 1,1 milliard de dollars. De tous les artistes hommes et femmes, elle est la première chanteuse à avoir franchi le seuil des 10 chiffres uniquement grâce à ses revenus tirés de la musique. À l'origine de sa fortune, les recettes faramineuses de sa tournée de Eras Tour en passent de devenir la plus lucrative de tous les temps avec 152 dates à travers le monde dont les billets s'arrachent à prix d'or. À la fois auteur ou co-auteur de presque toutes ses chansons, mais aussi productrice ou coproductrice, Taylor Swift a multiplié ses revenus pour chaque titre. À 34 ans, la jeune femme a le sens des affaires et même réenregistré ses 6 premiers albums dont elle ne possédait pas les droits d'enregistrements originaux. Son catalogue musical est estimé aujourd'hui à 500 millions de dollars.
Et au-delà des intempéries prévues au cours des 2 prochains jours sur la côte est dont nous avons déjà parlé, on termine en faisant un petit point rapide sur la météo en Australie ce jeudi 4 avril. 31 degrés et du soleil à Perth, soleil également à Adélaïde où il fera jusqu'à 22 degrés, 19 degrés à Melbourne et Hobart, 20 degrés à Canberra, 23 degrés à Sydney, 28 à Brisbane et jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Darwin. Et c'est l'heure maintenant du magazine des sports. Il a été concocté par Christophe Mallet.
Journal des sports, et on débute aujourd'hui avec la Coupe de France, deuxième demi-finale de cette Coupe de France, Paris Saint-Germain contre Rennes. Les Parisiens l'ont emporté dans la difficulté, 1-0, un but de Kylian Mbappé, un but donc qui soulage les Parisiens et surtout un match extraordinaire du gardien rennais. Mais ça n'aura pas suffi, donc victoire des Parisiens qui se retrouvent en finale. On écoute le défenseur du PSG, Lucas Hernandez.
Ouais, bien sûr, c'était un des objectifs de cette saison, pouvoir atteindre la finale de la Coupe. On est en finale, maintenant il reste plus qu'un match pour essayer de soulever cette Coupe. On est tous motivés, on a tous envie de disputer cette finale déjà. On est concernés, on sait qu'à tout moment, tous les joueurs peuvent avoir la chance de jouer, de tout donner sur le terrain, et c'est vrai que pour le coach, c'est pas facile, mais c'est le chemin à suivre pour essayer d'atteindre tous les objectifs que c'est la Coupe, le championnat et bien sûr cette Ligue des Champions.
Lucas Hernandez, donc plutôt content, satisfait et fier d'appartenir à cette équipe du Paris Saint-Germain qui a toujours donc ce triplé en tête, Coupe de France, Championnat de France et potentiellement la Ligue des Champions. Dans l'autre demi-finale qui était hier soir, Lyon a battu Valenciennes sur le score de 3-0. Lyon donc se qualifie après une année plutôt compliquée dans le championnat. Lyon donc qui se qualifie pour cette finale de la Coupe de France. Le résumé et les explications de Boubacar Diarra.
En football, l'Olympique Lyonnais est le premier qualifié pour la finale de la Coupe de France.
Ballotté une mi-temps par Valenciennes, dernier de Ligue 2, l'OL s'en est sorti en seconde période grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette, tout en pénalty généreux, suivi d'un but du Nigérian Gift Orban, un 3-0 pas si net, mais qui rapproche Lyon d'une 6e victoire dans l'épreuve. L'essentiel est là pour le capitaine Lacazette, soulagé au micro de beIN Sport.
C'est l'équipe qui a été incroyable aujourd'hui. Je suis à la finition, mais le travail du collectif, de toute l'équipe, du staff aussi, c'est incroyable. L'appui du public aujourd'hui qui a été incroyable, qui a été un vrai 12e homme, et je suis content parce qu'on mérite, c'était dur cette saison. Donc je suis content. La saison dernière, c'était un vrai regret et je me sentais responsable aussi. Donc là, je suis content qu'on peut aller en finale et je suis content pour tout le public et la ville lyonnaise.
C'était donc Alexandre Lacazette, le joueur star de l'Olympique Lyonnais. Allez, on continue sur le football pour conclure ce journal des sports aujourd'hui. Direction l'Allemagne et le Bayer Leverkusen qui est aux portes du titre pour la première fois de son histoire. Les explications de Cédric De Oliveira.
C'est un événement en Allemagne. Cette saison, le Bayern Munich, qui s'est adjugé les 11 derniers championnats, est largué, dépassé par un club qui lui n'a jamais été titré. Le Bayer Leverkusen, toujours invaincu et impressionnant. L'Ivoirien Odilon Kosunou y évolue en défense et se voit bien remporter la Bundesliga.
Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Là, il reste encore 8 journées. Vraiment des matchs importants à prendre au sérieux et tout. Et je pense que si on continue avec cette mentalité que nous avons, nous pouvons avoir ce titre.
Avec 22 victoires, 4 matchs nuls et 0 défaite, Leverkusen écrase tout, 10 points d'avance sur le Bayern Munich tout en déployant un jeu séduisant. Cette réussite, il le doit en grande partie à son entraîneur Xabi Alonso qui a fait du club une machine à gagner.
There are many reasons, but...
Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer ça. La seule chose que je retiens, c'est que j'ai des joueurs extraordinaires, une très bonne équipe, des gars incroyables qui tirent dans le même sens. C'est peut-être ça qui nous rend si forts. Ils ont une super mentalité. Ils ont toujours cette envie de vaincre et cette faim anime toute l'équipe. Nous ne voulons pas nous arrêter là.
Porté par une série incroyable de 38 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, Leverkusen semble lancé vers le titre. Toujours engagé en Coupe d'Allemagne et en Ligue Europa, il peut même rêver d'un triplé historique.
Cédric De Oliveira pour RFI. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Ce 4 avril, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, célèbre son 75e anniversaire. C'est en effet ce jour, en 1949, que le président américain Harry Truman et ses homologues de 11 autres pays d'Europe occidentale ont signé un accord formalisant la constitution de leur alliance.
This treaty is a simple document. The nations which sign it agree to abide by the peaceful principles of the United Nations. To maintain friendly relations and economic cooperation with one another. To consult together whenever the territory or independence of any of them is threatened. And to come to the aid of any one of them who may be attacked. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace.
L'objectif initial de l'OTAN était de promouvoir la défense et la sécurité collective au sein de ses pays membres, dans le contexte naissant alors de la guerre froide. Aujourd'hui, essentiellement en raison de l'invasion russe en Ukraine, l'OTAN vient d'accepter l'entrée de deux nouveaux membres dans son alliance, la Finlande et depuis le mois dernier, la Suède, dont le Premier ministre Ulf Kristersson s'est félicité.
It feels very good today, I have to say. It is a major step, but it's a very natural step. It's a kind of, today we actually, in a literal sense, made Sweden safer and more secure. And I'm proud to be the Prime Minister that had the job and the duty to fulfill that.
L'entrée de la Suède, qui n'a été impliquée dans aucune guerre depuis 1814, et de la Finlande, qui partage une frontière terrestre directe avec la Russie, et l'expansion la plus importante de l'Alliance depuis l'intégration de plusieurs pays d'Europe de l'Est après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Cette entrée de la Suède et de la Finlande, qui historiquement défendaient une position de neutralité, est un véritable revers pour le président russe Vladimir Poutine, qui a œuvré pendant des années pour que l'OTAN ne s'agrandisse pas davantage. Le président américain Joe Biden avait pourtant prévenu son homologue russe, une invasion de l'Ukraine ne ferait que renforcer l'OTAN.
Putin thought he could break us apart when this all started. He believed he could break us apart, in my view. Weaken our resolve. Instead, he's getting exactly what he did not want. He wanted the Finlandization of NATO. but he's getting the NATOization of Finland along with Sweden. Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine, NATO would not only get stronger, but would get more united. And we would see democracies in the world stand up and oppose his aggression and defend the rules-based order. And that's exactly what we're seeing today.
Encore la semaine dernière, Vladimir Poutine a adressé un avertissement aux alliés occidentaux de l'Ukraine. Si ces derniers fournissent des avions F-16 à Kiev, ils seront abattus par les forces armées russes.
If they deliver F-16s and they are talking about it and apparently training pilots for them, I think you understand it like no one else, better than anyone. It won't change the situation on the battlefields. We will destroy the warplanes just as we destroy their tanks, armored vehicles and other equipment, including multiple rocket launchers. Of course, if they are used from air bases of third countries, they will become a legitimate target for us wherever they are. F-16s are capable of carrying nuclear weapons, and we'll also need to take that into account while organizing our combat operations.
Des menaces que, pour sa part, l'amiral Rob Bauer, qui préside le comité militaire de l'OTAN, estime infondées.
There is no indications that Russia is going to attack any nation of the alliance. So I don't think there is an immediate threat. That's not the issue here. The issue is that Russia has larger ambitions than Ukraine. We know that. And therefore, the alliance as a whole needs to be readier, because we agreed to see Russia as a threat, like the terrorist organizations. And basically, then we changed our military plans, refocusing on collective defense. And that is what we have done. And the plans have been agreed in Vilnius. And now all the work that we do is to make sure that we can deter and defend against those two threats.
Selon plusieurs analystes, l'OTAN va devoir relever dans les prochaines années de nombreux défis, comme par exemple transformer le mode opératoire de ses forces armées pour les réhabituer à se défendre en cas d'attaque russe, alors que ces dernières années, elles s'étaient portées sur d'autres terrains militaires, notamment en Afghanistan et dans les Balkans. Les membres de l'OTAN sont également divisés sur le rôle que devrait jouer l'organisation en Asie. Les Américains plaident pour une intervention plus directe visant à contrer la montée en puissance de la Chine, tandis que d'autres, notamment la France, estiment que l'OTAN doit rester concentrée sur sa région de prédilection, l'Atlantique Nord. Dans tous les cas, et malgré son caractère éminemment militaire, Robert Benson, un analyste spécialiste de la sécurité nationale et de la politique internationale au Center for American Progress, considère qu'au cours de ses 75 années d'existence, l'OTAN a été un instrument de paix.
The history of Europe has been one of, perpetual conflict. Up until the realization of NATO 75 years ago, in 1949, which has maintained a really durable peace within the Euro-Atlantic zone. So that, to me, I think more so than anything else, is the historic nature of the accomplishment.
Vous venez d'écouter un reportage d'Essam Al-Khalib, traduit en français par votre serviteur, Grégory Pless. Bonjour Michel Barnier, nous sommes ravis de vous avoir sur les ondes de SBS French.
Bonjour et merci à tous les auditeurs de SBS French d'écouter ce moment de dialogue.
Alors je le rappelle, vous avez été député européen, plusieurs fois ministre, commissaire européen et négociateur en chef pour le compte de l'Union européenne dans le cadre du Brexit. C'est la raison qui vous amène actuellement à être en Australie. Vous avez été invité par l'Université du Queensland pour partager cette expérience. Sur ces négociations, on sait qu'elles ont été longues, qu'elles ont été âpres, qu'elles ont été aussi tributaires des remous de la politique interne britannique. Vous avez dit que vous avez eu affaire à plusieurs chefs de gouvernement et à plusieurs négociateurs différents. Quel a été le point le plus délicat à négocier, sachant qu'il y a évidemment des centaines de paramètres qui sont rentrés en compte?
D'abord, il est exact que cette négociation était très complexe, très longue, et c'était normal parce que on a mis fin, malheureusement, à 45 années de coopération avec le Royaume-Uni, d'intégration. le Royaume-Uni avait voulu adhérer à la communauté européenne économique pour des raisons de commerce, d'économie, en 73, et finalement ils ont quitté, ce que je ne comprends toujours pas, contre leur propre intérêt, ce marché unique qui était si important pour eux. Mais au total, c'est près de 600 accords internationaux qu'on a détricotés durant cette négociation. Donc c'était très complexe. Le sujet le plus sensible et le plus grave pour moi, il n'est pas lié au commerce, il n'est pas lié à la technique ou à l'argent, il est lié aux hommes et aux femmes en Irlande, la paix en Irlande. Parce que dans les conséquences du Brexit que personne n'avait expliqué aux Britanniques avant de voter, il y avait les conséquences concrètes pour une partie de l'île d'Irlande, l'Irlande du Nord, qui est partie du Royaume-Uni, qui est toujours membre du Royaume-Uni, et c'est de quitter le marché commun et donc de créer un problème lié aux frontières que nous devons créer, nous, partout, pour contrôler les produits qui rentrent dans l'Union européenne. Donc on a eu... Et là, c'était impossible de le faire avec une nouvelle frontière sur l'île, parce que c'était la condition de la paix, de ne pas avoir de frontière. Donc ça, c'était le plus grand sujet.
Alors, le Royaume-Uni, pendant les près de 50 ans au cours desquels elle a fait partie de la communauté puis de l'Union européenne, a toujours été... sans doute le membre le plus turbulent au sein de cette union. Paradoxalement, est-ce que l'Union européenne est plus forte, plus efficace maintenant que les Anglais sont partis ?
Non, je ne le crois pas. Je pense que le Brexit reste, comme on dit en anglais, lose-lose game. C'est un accord perdant-perdant, parce que c'est un affaiblissement des deux côtés. Nous avons perdu un membre important, parfois turbulent, indépendant, qui avait sa propre idée, pas toujours la même que la nôtre, de l'avenir de l'Europe. Ils étaient plus dans une idée économique et nous dans une idée économique et politique. Mais c'était important qu'ils soient avec nous. Et eux, maintenant, ils sont tout seuls, dans le grand large, ce qui était parfois leur habitude dans l'histoire, mais on n'est plus au même moment. Nous sommes dans un monde où les grands enjeux, les grands pays, personne ne nous attend, il y a beaucoup de risques et je pense qu'il vaut mieux aborder et affronter ces challenges, ces grands risques, le terrorisme, le changement climatique. Il y a tellement de sujets où on ne peut pas affronter tout seul les problèmes. Donc il vaut mieux être ensemble. Je pense qu'ils sont plus faibles parce qu'ils sont seuls et nous sommes plus faibles parce que nous les avons perdus. Voilà le résultat d'aujourd'hui.
Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, il se rend compte que c'était peut-être pas une très bonne idée sur le plan économique. On a un phénomène qu'on appelle le regret en Angleterre, le regret d'avoir quitté l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que cette expérience, a priori pour l'instant pas très positive, a pu décourager d'autres pays, d'autres dirigeants politiques de vouloir suivre le même chemin ?
C'est vrai qu'on n'entend plus depuis 3 ou 4 ans d'autres responsables de le far right, de la droite radicale, de l'extrême droite, revendiquer la sortie de leur pays, ni Mme Le Pen en France, ni même M. Salvini en Italie ou M. Geert Wilders aux Pays-Bas, mais je pense qu'ils n'ont pas changé d'opinion. Donc il faut faire attention. Le Brexit a eu cette vertu pédagogique, puisqu'on avait fait un débat, une négociation transparente, un débat public permanent, personne n'a été surpris, tout le monde a vu ce qui se passait. Moi j'ai été très attentif à parler de tout à tout le monde en même temps, dans tous les pays, et donc ça a une valeur pédagogique. Et on voit aujourd'hui les difficultés du Royaume-Uni. Elles ne sont pas toutes liées au Brexit, pour être sincère, mais toutes ces difficultés sont plus graves à cause du Brexit, parce qu'on a recréé des barrières entre eux et nous. Ça, c'est la conséquence du Brexit.
Dites-moi si je me trompe, actuellement 9 pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, parmi lesquels l'Ukraine, mais beaucoup aussi de pays de la région des Balkans. Est-ce que l'entrée d'un ou de plusieurs nouveaux membres dans l'UE vous semble possible dans un avenir proche ?
Ces négociations ont été ouvertes avec plusieurs pays, parfois depuis longtemps, pour certains pays des Balkans occidentaux, d'autres plus récentes, comme avec l'Ukraine ou la Moldavie. Oui, ces pays ont une vocation à être dans l'Union européenne. C'est la promesse qu'on a faite à ces peuples qui veulent adopter notre système de valeurs, de démocratie, de liberté, malgré les pressions russes juste à côté d'eux. Et donc, oui, ces pays ont une vocation. Maintenant, c'est compliqué de quitter l'Union européenne, c'est très complexe, c'est un choc. C'est aussi compliqué d'y entrer. Ça peut être un choc si on n'est pas préparé. Donc il faut que nous nous préparions et qu'eux se préparent. Donc on a des négociations qui continue, qui s'amplifie. On a des accords d'association, comme avec l'Ukraine, qui sont importants. On les aide pendant ce temps-là et on se prépare, mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas qu'il y ait de raccourcis, parce qu'un raccourci serait une erreur pour eux et pour nous.
Un dernier point, il y a des élections européennes qui approchent et les défenseurs de l'Europe ont fait valoir que c'est parce qu'on est 27 qu'on a pu mener par exemple une stratégie efficace d'acquisition de vaccins pendant la pandémie de Covid, qu'on a pu se mettre d'accord sur comment aider l'Ukraine. Et pourtant, l'extrême droite et les eurosceptiques de manière générale sont donnés gagnants, pas seulement en France mais sur tout le continent. Comment vous voyez tout ça ?
D'abord, je pense que le pire n'est jamais sûr. On ne peut pas écrire le résultat des élections avant qu'elles ne soient produites. La campagne commence tout juste. Je pense qu'une campagne, c'est une campagne d'explication, de débat public, pour montrer les mensonges, comme on l'a vu pour le Brexit, les approximations, les simplifications. L'absence aussi de beaucoup de leaders d'extrême droite à Strasbourg, à Bruxelles, où on ne les a pas beaucoup vus. Donc, il faut donner du temps à la démocratie pendant cette campagne. Depuis le Brexit, d'ailleurs, les Européens ont commencé à réagir en contrôlant mieux leurs frontières, mais ce n'est pas encore parfait, en investissant davantage par des emprunts communs, comme on l'a fait après le Covid, par moins de naïveté dans nos échanges commerciaux pour protéger nos productions industrielles ou agricoles. Donc on commence à réagir et à répondre à ces préoccupations des gens, parce que c'est ça qui est le plus important. De quoi se nourrit le populisme ? Il se nourrit d'une vraie inquiétude sociale, d'une vraie angoisse sociale qui existe. Et donc, moi, je ne confonds pas le sentiment populaire, cette angoisse sociale, avec le populisme. Il faut comprendre, écouter les raisons du peuple, des peuples, et leur répondre. C'est ce qu'on commence à faire, mais ça prend du temps. Est-ce qu'on arrivera à le démontrer avant les élections européennes ? C'est difficile, mais on va commencer à le faire.
Merci beaucoup, Michel Barnier.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
À nouveau en studio pour SBS French, Boris Toukas, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Australie. Salut Boris.
Bonjour Marianne.
On va aborder un sujet extrêmement large aujourd'hui. Il vous reste quelques mois à l'ambassade avant de voguer à de nouveaux projets. Alors on en profite, vous êtes à Melbourne, on vous a attrapé pour vous emmener en studio. On voudrait parler avec vous aujourd'hui de la relation franco-australienne. Pour commencer, le développement du réseau en Australie, Boris, et plus précisément, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelles sont les ambitions françaises dans le Pacifique ?
Merci Marianne et merci à SBS de m'accueillir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'avoir ces échanges. L'ambition française en Australie, c'est d'abord l'ambition du président de la République et on parle souvent de l'Indo-Pacifique, mais concrètement pour nous les ambassades et pour les Français sur place, pour la communauté francophile en Australie, qu'est-ce que ça veut dire ? La France et l'Australie sont tous deux des pays de l'Indo-Pacifique, mais dans des positions géographiques et politiques et culturelles très différentes. La France a des territoires à la fois dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, et l'Australie est à la marge de ces deux espaces, de ces deux océans, mais se trouve finalement au centre de la zone. La France a environ 1,5 million de ressortissants qui sont soit dans l'océan Indien, soit dans l'océan Pacifique, donc c'est une population tout à fait significative. Je crois qu'il y a environ 80 000 Français sur le sol australien, mais c'est un chiffre qui est en forte croissance, notamment avec les visas vacances-travail, donc c'est une communauté qui va s'agrandir. Et pourtant, on a une francophilie en Australie qui est réelle, un intérêt pour la France, mais en fait cet intérêt est souvent très tourné vers la métropole. Et finalement, on a une connaissance réciproque des territoires qui est assez superficielle, alors même que la Nouvelle-Calédonie finalement est à 2 heures d'avion de Brisbane. C'est le territoire étranger le plus proche du Queensland. Donc on a cette incompréhension. Et nous, l'ambition sur le volet coopération, c'est vraiment de parvenir à une meilleure connaissance mutuelle des deux pays, des deux populations, et créer des liens dans le long terme qui ne soient pas purement des liens commerciaux ou techniques ou opportunistes, mais vraiment aller vers la compréhension de l'autre et le développement d'une vision ensemble pour le futur.
Et justement, comment vous engagez avec le public australien ?
Eh bien en fait, et là pour moi ça a été une courbe d'apprentissage en arrivant en Australie, les Australiens sont d'abord intéressés par l'Australie et on peut faire de l'influence ou faire d'une politique culturelle française en Australie, mais pour intéresser les gens, il faut aussi que ça les concerne. Notre stratégie réseau ici, la manière dont on coopère, dont on fait monter les Australiens à bord de nos activités et la manière d'intéresser le public au mieux, c'est vraiment d'aller faire non pas de la France en Australie, mais du franco-australien partout où c'est possible, que ce soit sur le volet scientifique où on a contribué à la création d'un réseau scientifique franco-australien, la FRAN, qui aujourd'hui regroupe plus de 1000 membres et qui a construit des centres régionaux un peu partout dans le pays. Le dernier a été inauguré pour l'océan Indien en novembre 2023. Mais c'est le cas aussi dans les écoles ou sur le volet linguistique, par exemple, où l'ambassade n'est pas forcément à l'initiative, mais par contre, on va être en soutien d'initiatives bottom-up des Australiens et de la communauté française en Australie pour aider à construire des programmes d'immersion, structurer un réseau et finalement accepter l'idée que les deux pays ont beaucoup à partager sur le plan de l'histoire, mais aussi des valeurs. Et que si on veut faire des choses avec l'Australie, il ne faut pas juste les faire en Australie, mais il faut le faire avec les Australiens. Et dans la période plus récente, après notamment la visite ministérielle de décembre 2023, on a vraiment poursuivi cette logique et on l'a assumée jusqu'au bout, puisque deux des projets majeurs sur le volet coopération qui sont issus de cette visite, c'est d'une part la création d'une fondation culturelle franco-australienne, French Australian Cultural Exchange Foundation, FACEF, dont le board est australien, dont les philanthropes vont être en partie australiens, mais qui bénéficient également d'un soutien d'apport de fonds publics français et qui va permettre de construire une dynamique artistique et culturelle franco-australienne. Sur le volet scientifique, le projet majeur issu de la visite ministérielle, c'est le Centre sur la transition énergétique FACET. Et pareil, on a là une association d'intérêts français et australiens, une invitation à participer pour les entreprises. Et on essaie de créer du lien en prenant appui réellement sur le partenaire local et dans le cadre de partenariats. Voilà, pas simplement d'une logique de projection de l'influence ou de la culture française.
Donc là, vous venez de nous présenter les projets concrets mis en place par l'ambassade. Évidemment, il y a parfois des expositions, des événements, des conférences, tout ça. Ce sont des projets à très court terme, ce sont des projets immédiats. Mais si on vous comprend bien, Boris, le but quand même de toute cette coopération franco-australienne, c'est du long terme.
Oui, parce qu'en fait, le lien géographique est réel, le lien historique est réel, mais construire du lien entre les populations françaises et australiennes sur le long terme, c'est pas évident. Et on a beaucoup effectivement de projets, notamment dans le domaine culturel. Et pour vous qui êtes à Melbourne, on le voit avec la NGV, où en fait, les liens entre institutions australiennes et françaises peuvent être très forts. Mais la question est de savoir comment faire vivre ces liens dans le long terme et comment faire en sorte que ces liens n'intéressent pas simplement une partie de la population très spécialisée sur les arts et la culture, mais l'ensemble du public. Et dans la manière de travailler, on essaie d'intégrer cela, d'intégrer aussi les spécificités australiennes, notamment dans le rapport aux populations aborigènes et du détroit de Torres, par exemple. C'est un enjeu ici. Et donc, il faut savoir comment on va aider à le porter, comment on s'intègre dans ce débat australien. Mais c'est aussi le cas quand on organise des événements de type débat d'idées, comme la Nuit des idées récemment à Melbourne, où l'enjeu n'est pas simplement d'inviter des intervenants français à parler aux Australiens, mais vraiment d'avoir des échanges entre des intervenants français et des intervenants australiens qui chacun amène un point de vue sur le monde. Et à la fin, en fait, on essaie soit de trouver des nouvelles idées, soit de se rencontrer au milieu. Et finalement, le lien entre les deux pays, notamment dans la région Pacifique à terme, c'est vraiment ce défi-là, pas avoir simplement des logiques parallèles, mais un véritable dialogue qui permet de travailler sur des projets. Ce sera le cas sur le volet culturel, ce sera le cas sur le volet artistique quand on encourage des résidences d'artistes dans les deux pays. Mais ça va être aussi le cas sur un volet, par exemple, scientifique, quand on va travailler avec l'Australie sur des thématiques telles que le changement climatique, les océans, l'Antarctique, voire les sciences sociales. Il y a vraiment beaucoup à faire, mais cela n'émerge pas nécessairement spontanément. Et c'est tout le travail de l'ambassade et toute l'équipe à l'ambassade que je salue, qui travaille dur, que de parvenir à créer ces réseaux et créer ces liens pour finalement faciliter la rencontre entre les peuples.
On va parler des ambitions futures dans un instant, mais avant, si on devait faire le bilan, on est en avril 2024, comment vous mesurez votre succès, si je puis dire? Est-ce que vous êtes satisfait de la coopération actuelle? Et comment vous mesurez votre satisfaction de cette coopération?
Il y a peut-être plusieurs étapes ou plusieurs niveaux d'attente. Le premier, c'est d'abord de parvenir à s'adresser et à correspondre aux attentes de la communauté francophile en Australie, française, d'origine française ou juste, pas française, mais francophile. Et là, on peut prendre l'exemple du Festival du film qui est porté par le réseau des Alliances françaises, que l'ambassade soutient, et le succès de ce festival qui se dément pas année après année, puisque je crois que la fréquentation est en forte hausse cette année, montre bien qu'on parvient à toucher un public très large, à le fidéliser, à offrir un contenu de qualité en coopération et grâce à des acteurs locaux et des bénévoles, et ce dans toute l'Australie. Donc ça, c'est un premier point. On a aussi développé spécifiquement des projets qui visaient à toucher un public qui n'était pas nécessairement au départ francophile, mais qui pouvait être intéressé par le discours ou le regard de la France sur le monde. Et c'est le cas avec des événements de type Nuit des idées, où finalement, quand on parvient, après des années de travail, à attirer voilà environ 1000 personnes à la NJV, là, on voit qu'on a touché quelque chose. Et finalement, le troisième défi, et c'est ce qui est vraiment issu de la visite de décembre dernier, c'est notamment le cas avec la fondation FACEF sur le volet culturel, c'est comment on consolide des liens culturels, voire comment on arrive à créer des dynamiques culturelles et artistiques ensemble sur le long terme. C'est le défi auquel on s'attelle aujourd'hui, puisque la fondation commence à fonctionner. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de parvenir à découvrir des talents, lever des fonds pour pouvoir financer des activités, et derrière, permettre à des artistes ou des intellectuels ou des scientifiques ou un mélange, par exemple, d'artistes et de scientifiques, de travailler ensemble, de créer des projets qui n'existeraient pas sans la fondation, et sur le long terme peut-être d'encourager l'émergence de nouvelles activités. La mesure du succès là, on la verra pas à un an ou même trois ans, on la verra dans 10 ans si on a réussi à créer un réseau de personnes intéressées à la relation franco-australienne, mais qui parviennent aussi à le mettre en œuvre dans leur secteur d'activité propre, en développant de nouveaux projets qui sont directement liés aux échanges franco-australiens.
Alors, je précise que la visite de décembre dont vous parlez, c'est la visite de l'ex-ministre des Affaires étrangères qui s'est déplacé en Australie, en effet, début décembre. Et la Nuit des idées, on en a parlé à plusieurs reprises. Si certains de nos auditeurs ne savent pas ce que c'est ou ont envie de redécouvrir un petit peu ce concept, on a fait plusieurs interviews, notamment avec vous, Boris, et avec certains invités francophones qui étaient présents. Cette année, elle était à Melbourne, c'était le 1er mars. Et toutes ces interviews sont bien sûr à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. On parlait des ambitions futures. Boris, on y arrive. Alors bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais selon vous, il va ressembler à quoi l'avenir ?
Sur le plan très large, les deux pays regardent ensemble vers l'avenir, engagent aussi des partenaires dans la région qui sont les mêmes. Ça va être le cas par exemple avec l'Inde, mais pas uniquement. Et que dans la zone Pacifique notamment, on est dans une logique d'intégration régionale où tous les acteurs cherchent à se positionner, y compris d'ailleurs sur la question des échanges entre, enfin, le secteur qui me concerne, hein, les échanges culturels, les échanges artistiques. À Hawaï, en juin 2024, on va avoir le Festival des Arts océaniens qui a lieu tous les 3 ou 4 ans, je crois, mais qui est une rencontre de tous les mouvements artistiques de la zone Pacifique. Et en fait, c'est logique. Les territoires français en sont partie prenante, l'Australie aussi, mais la Nouvelle-Zélande également. Et donc, c'est important de réfléchir ensemble à l'avenir, de pouvoir le construire ensemble et pas simplement d'avancer en parallèle. Donc, à notre modeste échelle, on essaie de contribuer à cet effort et de créer les liens qui permettent aux gens de se rencontrer, de dialoguer et d'avancer ensemble.
Boris Toukas, je le rappelle, vous êtes encore pour quelques mois conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Australie. Merci beaucoup.
Merci Marianne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de Laurent Voulzy, Cocktail chez Mademoiselle, revisité par le DJ français Yuxek. Merci de nous avoir écoutés, merci aussi pour votre fidélité. Notre prochaine émission, ce sera samedi à 13h précise. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez écouter Toutes nos émissions, nos interviews et nos reportages quand vous voulez et gratuitement. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming audio préférée. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.